Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Argot, qui est responsable de la Société biblique de Genève.
Ce matin, je voulais vous partager la parole autour non pas d'un texte en particulier, mais d'un thème qui me tient à cœur, une réflexion que j'ai eue il y a quelques semaines sur le fait de s'engager. Est-ce que c'est une affaire simplement de cœur ou c'est aussi une affaire de tête ou de raison? Et c'est vrai que quand nous poussons, faisons des appels aux uns et aux autres, et en particulier aux jeunes, à s'engager, nous sommes plus à faire appel à leurs sentiments, mais pas toujours aussi à leur raisonnement et à leur raison. Et il y a des raisons de s'engager, comme aussi le fait d'avoir un appel et une réponse du cœur. Et bien sûr que s'engager pour Dieu, c'est une affaire de cœur. S'engager pour Dieu, est-ce une affaire de cœur ou une affaire de tête? Plusieurs textes qui disent que s'engager pour Dieu, c'est une affaire de cœur. 2 Corinthiens 5, l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul dit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et même si j'ai toute la foi, qui pourrait se targuer parmi nous d'avoir tout cela de manière absolue ? Eh bien, même si quelqu'un l'avait de façon absolue, mais que je n'ai pas l'amour, je passe du tout à rien, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Mais quand l'amour faiblit, que se passe-t-il? Quand on n'a pas forcément les mêmes choses qui se passent dans notre cœur, alors est-ce qu'à ce moment-là, nous cessons de nous engager? Est-ce que c'est simplement un engagement pour Christ, c'est pour Dieu, quand je le ressens? Alors j'aimerais prendre une métaphore que l'apôtre Paul emploie très souvent dans ses épîtres, qui est une course, qui décrit l'engagement pour Dieu. Il le décrit à plusieurs manières. Par exemple, en 1 Corinthiens 9, il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Tous les adeptes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, nous le faisons pour une couronne indescriptible. En Philippiens 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou atteint la perfection. » Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, sachant que de moi, Jésus-Christ s'est déjà emparé. Et puis, à la fin de sa vie, Paul peut dire la chose suivante dans la deuxième lettre à Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, et c'est une couronne de justice qui m'est réservée. » Alors, j'aimerais prendre cette image de la course pour dire que s'engager pour Dieu, c'est avoir une claire vision du départ, de l'arrivée et de là où nous sommes, comme dans toute course. Et pour illustrer cela, j'ai pris une vidéo qui a été présentée quand Londres a fait sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2012. Ils ont montré cette vidéo et je la trouve extrêmement touchante pour illustrer ce propos. Et donc cela illustre dans la vie de ces jeunes enfants qui deviennent des athlètes de très haut niveau. Leur objectif, pour progresser, ils ont un sens de là où ils viennent, de là où ils veulent aller et de là où ils sont. Et pour nous, c'est pareil quelque part. Alors ce que je vous propose, c'est comprendre la vision que Dieu lui-même a sur ce point de départ, sur ce point d'arrivée, sur ce présent, de façon à ce que nous nous orientions par rapport à notre salut, par rapport à notre identité, et par rapport à notre citoyenneté. Et je vous propose donc ces trois volets de réfléchir à ce qui s'est passé avant ce 6 décembre 2020, ce qui va se passer, notre espérance, et ce qui se passe aujourd'hui et au jour le jour. Par rapport à notre salut, il y a un départ, une arrivée et un présent. Déjà, un passé, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, un texte que nous connaissons tous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est quelque chose qui est fait, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ou lorsque la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés, il nous sauva. Ou bien, il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Ça, c'est notre point de départ sur lequel nous pouvons nous appuyer de façon extrêmement ferme. Avant nous, si cela a été rendu possible, c'est que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, dit Paul, Christ est mort pour nous. Maintenant, on pourrait même dire, avant même que nous soyons des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cela fonde tout. Ensuite, nous voyons des textes un petit peu plus étonnants. En Romains 13, Paul écrit ceci, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors, je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? C'est tout simplement parce que ce si grand salut est assuré, mais il n'est pas complètement réalisé. Et donc, l'espérance, ce futur qui nous attend, c'est que nos corps seront enfin transformés, enfin rendus parfaits, rendus à l'image de celui qui nous a tant aimés. En 1 Pierre 1, voilà ce que dit l'apôtre, il dit « Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. » C'est encore la dimension corporelle du salut que nous espérons. Et puis, il y a maintenant ce que nous vivons. Mais ce salut futur, il est assuré quand nous lisons « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, c'est fait, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Et c'est quelque chose de terrible, la colère de Dieu. Mais il est assuré que nous en serons sauvés. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est le point d'arrivée. Alors pour le présent, un verset aussi qui peut nous intriguer, c'est « Travaillez à votre salut ou mettez en œuvre votre salut avec crainte et un profond respect. » On se dit « Mais j'ai toujours cru que j'étais sauvé par la grâce, alors il faut travailler à son salut, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là » C'est simplement que Dieu veut nous transformer pour que notre personnalité soit comme Jésus-Christ. Et donc c'est ce qu'il fait aujourd'hui et chaque jour de notre vie. C'est ça le présent, c'est ça la course que nous courons tous les jours. En 1 Corinthiens 1,18, il est dit « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, mais le grec dit « qui sommes en train d'être sauvés », c'est quelque chose qui est progressif, il est la puissance de Dieu. Paul dit à Timothée « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. » Ça ne veut pas dire que son salut complet est remis en question, c'est simplement qu'il applique le salut à sa personnalité et que tant lui que ceux qui l'écoutent sont appelés sur le chemin de devenir comme Jésus. En Jacques, il est dit « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Alors par rapport à notre salut, Dieu définit un point de départ. Ce qu'il a fait lorsque Jésus est mort sur la croix, bien avant que nous soyons des pécheurs. Ce qu'il a fait pour nous, du moment que nous l'avons accepté dans notre vie. Vous êtes sauvés par la grâce. Ce qu'il fera, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous attendons un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps, mais ce qu'il fait chaque jour, au niveau de notre personnalité, de nous transformer, de nous faire ressembler un petit peu plus à Jésus. Par rapport à notre identité, c'est pareil, je passe sur ces deux textes, vous pourrez les lire. Le passé fonde une assurance, le futur fonde une espérance. Et puis j'ai pris une image un petit peu sportive pour dire que le présent c'est l'endurance, mais c'est aussi la dépendance. Puisque même quand il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement », il est dit juste après « C'est lui qui opère ces choses en vous, c'est lui qui opère le vouloir et le faire. » Donc, une dépendance. Notre identité, alors je n'ai pas encore le privilège, je fais un petit peu de clientélisme ici, d'avoir troqué ma carte d'identité française contre une carte d'identité suisse. Cela viendra peut-être dans quelques années. Mais lorsque nous avons été sauvés, nous avons aussi changé d'identité. Nous avons reçu une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et cela parce qu'avant nous, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce quelque chose, Paul dit, nous savons que le vieil homme a été crucifié en Christ. Qu'est-ce que c'est le vieil homme ? Le texte d'avant, Romains 5, nous le montre, c'est la personne que nous étions en Adam. Et ces deux lignées sont opposées, la lignée d'Adam et la lignée de Jésus-Christ, pour simplement dire, tu étais le vieil homme, tu étais en Adam, et maintenant tu as reçu une nouvelle carte d'identité, tu es un nouvel homme, tu es un nouveau Christophe, parce que tu n'es plus en Adam, tu es en Christ. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Et donc, qu'est-ce qui permet à l'apôtre de dire, en Colossiens 3 par exemple, « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme, c'est fait, c'est quelque chose qui est réalisé, il n'y a pas quelque chose à refaire. » Et de ces manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau, vous avez changé d'identité. Quand on change d'identité, quand on sait que Dieu nous voit non plus comme ce vieil homme, mais comme un nouvel homme, alors nous pouvons nous comporter différemment. Dans l'évangile selon Jean, de la même façon, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Nous avons changé d'identité. Dans le présent, il y a quelque chose qui se passe aussi, puisqu'on a le choix dans la vie de se comporter soit comme on était avant, soit comme on est devenu. On peut marcher sur les chemins du vieil homme. C'est quoi les chemins du vieil homme ? C'est simplement le fait de dire, Dieu, je fais appel à toi et j'ai besoin de toi que quand c'est super nécessaire. Mais sinon, je peux bien me débrouiller tout seul. C'est ce que le Nouveau Testament appelle vivre selon la chair. Et cela produit des fruits qui sont connus dans Galates 5 et qui sont décrits. Et il y a un autre mode de vie qui est de vivre selon l'identité que l'on a reçue, selon l'esprit, en dépendance de Dieu. Alors c'est ce que Paul dit. L'homme nouveau, il est en train de se renouveler. Se renouveler à l'image de qui ? À l'image de celui qu'il a créé. Dieu nous a fait une nouvelle création et cette création est en train de se renouveler en nous et est en train de devenir comme Jésus-Christ. Aussi une injonction de l'apôtre en Éphésiens 4, « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et à vous revêtir de l'homme nouveau, à vous laisser renouveler dans l'esprit, à vous revêtir de l'homme nouveau. » Donc Paul parle de choses qui sont faites dans Romains 6, le vieil homme a été crucifié, mais il parle aussi de choses à faire tous les jours, de se dire « Mais si je suis ce nouveau Christophe, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus penser que je peux me débrouiller tout seul sans Dieu dans ma vie. Je ne peux pas penser que je peux vivre d'une façon la semaine et d'une autre façon le dimanche. » Donc ça, c'est le présent. Et puis, il y a un futur. Donc il y a plusieurs textes encore. J'ai cité Jean 1, verset 12, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, voici. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et pour autant, ce que dit l'apôtre un petit peu avant, c'est de dire, mais toutes choses ne sont pas forcément nouvelles, puisqu'il dit, même si notre être extérieur se détruit, notre être extérieur, il n'a pas fait tout nouveau. Ça se saurait. Toutes choses sont faites nouvelles, mais nous conservons nos infirmités, nous conservons notre capacité de tomber malade. Donc, il y a des choses qui ne sont pas complètement rendues nouvelles. Mais à l'intérieur, l'être intérieur, il se renouvelle tous les jours. C'est ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore, quelque part. Et puis, il y a aussi un acte pour reprogrammer notre esprit. Voilà ce que dit Paul. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est une autre façon de vivre sa nouvelle identité. C'est de voir les choses autrement. Ce n'est pas penser comme le monde qui nous entoure, mais c'est d'être reprogrammé pour penser comme Dieu et de discerner la volonté de Dieu, quelle est-elle, bonne, agréable et parfaite. Et puis à l'arrivée, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. car nous le verrons tel qu'il est. Alors, par rapport à mon identité, comment je cours la course? Je sais que je ne suis plus le vieux Christophe en Adam. Je suis le nouveau Christophe en Jésus-Christ. Ce, depuis le 24 juillet 1985. Et ensuite, depuis ce temps-là, depuis 35 ans, s'est passé beaucoup de choses. Et des fois, j'ai vécu comme le vieux Christophe, comme le vieil homme. Et puis, j'ai appris à vivre aussi comme le nouveau Christophe et à reprogrammer mon esprit, à me redonner à Dieu. Et je sais que mon être parfait sera un jour révélé devant le Christ. Et c'est ce qui me donne le point d'arrivée de cette course, mon identité. Alors, il est capital de comprendre qui on est, comment Dieu nous a transformés, ce que Dieu a fait de nous pour pouvoir vivre et courir cette course au jour le jour. Ensuite, une troisième dimension que je vous propose, la dimension du royaume. Et je prends une petite analogie, vieille de 75 ans, 80 ans. Il y a 80 ans, les Allemands ont envahi la France. Ils ont envahi toute la France, et puis pendant ces 4 années, des personnes se sont retrouvées en cachette. Et dans des caves, ils ont écouté Radio Londres. Alors que la France était occupée, leur citoyenneté était toujours française. Et ils écoutaient Radio Londres avec cette conscience profonde d'être français. Aujourd'hui, le prince de ce monde n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ ne règne pas sur toute chose de façon visible. Mais ici, comme ailleurs, comme en Chine, comme dans des pays musulmans, il y a des chrétiennes et des chrétiens qui se retrouvent dans des caves pour vivre leur citoyenneté réelle, pour vivre ce royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, de la même façon, est passé, présent et futur. Passé parce que le royaume de Dieu a fait irruption. On va bientôt s'en souvenir à travers la venue de Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Par Jésus-Christ, il est venu. Aux pharisiens, il va dire, alors qu'ils se demandent quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur dit, mais le royaume de Dieu, il vient pas en se faisant remarquer, puisqu'ils attendaient un autre royaume, ils attendaient un royaume politique. Mais Jésus leur dit, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il est parmi vous. C'est déjà fait, il est là. En acte 1, quand il se présente à ses disciples après la résurrection, il leur dit qui il est, mais il se montre à eux et leur parle en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est les premières choses qu'il va dire à ses disciples. Et puis, par rapport à ce qui est annoncé, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, hommes et femmes se firent baptiser en Samarie, en acte 8. Et puis, quand Paul est dans son premier emprisonnement à Rome, Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance. C'était quelque chose de capital, le royaume de Dieu, au moment des évangiles, au moment des actes. Pour nous-mêmes, sommes-nous dans le royaume de ce monde ou dans le royaume de Dieu? Voilà ce que nous dit Paul en Colossiens. Il nous a délivrés de la puissance des démons et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est quelque chose qui s'applique aussi à nous, aujourd'hui, maintenant, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Or, les valeurs du royaume se vivent. Elles se vivent parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Alors, cela nous fait regarder différemment les affaires de notre monde, parce que nous savons que notre droit de cité où notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons aussi le Sauveur Jésus-Christ. Et puis aujourd'hui, nous sommes un petit peu comme ces résistants qui écoutent Radio Londres, puisque aujourd'hui nous ne voyons pas encore que tout soit soumis à Jésus-Christ. Mais nous attendons ce royaume. Déjà, quand nous prions le Notre Père, nous prions quoi? Qu'est-ce que nous prions quand nous prions le Notre Père? Que ton règne vienne, exactement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quelque chose qui est extrêmement fort à prier dans cette perspective. Jésus lui-même, avec ses disciples, prit la première coupe lors du repas pascal. Ce n'est pas la coupe que nous prenons quand nous nous souvenons de lui, c'est celle d'avant. Et il dit, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ce royaume, il est en espérance. Et puis enfin, ce qu'il a dit, c'est qu'il faut qu'il règne. Il faut que Jésus-Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ce « il faut », c'est l'assurance pour demain, c'est quelque chose qui me remplit d'émotion. Parce que si l'on pense, quand Jésus a dit « il faut », c'est très émouvant. Quand il avait 12 ans, il a dit à son papa et à sa maman « il faut que je sois aux affaires de mon père » en Luc 2. Ensuite, en Luc 4, devenu adulte, « il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Quand Jésus voit Zachée, il dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Mais pour cela, il a fallu d'autres « il faut ». À Nicodème, Jésus va dire « il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Quand il chemine avec les pèlerins d'Emmaüs, il dit « ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans la gloire ?» Et tous ces « il faut » fondent le « il faut qu'il règne un jour ». Alors pour cela, en conclusion, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Est-ce que s'engager pour Dieu, c'est simplement une affaire de sentiment? Quand on voit ce que Dieu dit de notre passé, de notre présent et de notre futur, c'est aussi une adhésion non seulement de cœur, mais c'est une adhésion de nos pensées. Une adhésion de nos pensées pour entrer dans la course. Entrer dans la course, c'est à tout âge. Ce n'est pas la peine, étant jeune, d'attendre. Il n'est jamais trop tôt pour entrer dans la course. Et puis, si on se dit « c'est trop tard pour entrer ou reprendre la course », ce n'est pas vrai. Il y a toujours un moment où reprendre la course. Cependant, il ne faut pas chercher à faire ce que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Il ne faut pas essayer de travailler à améliorer l'ancienne. Dieu nous a donné une nouvelle identité. Il faut simplement la recevoir. Avoir de justes attentes et des perspectives justes et faire des choix en fonction de l'éternité, pas du moment présent. Alors je vais donner quelques exemples. Si l'on parle du mariage, par exemple, on peut avoir des attentes exagérées, de se dire, mais si tout n'est pas parfait dans le mariage, s'il n'est pas en même temps une amitié, une relation fusionnelle, une relation passionnelle, et etc., eh bien je vais divorcer. Si nos mariages ne sont pas parfaits, il peut y avoir, par la grâce de Dieu, pour autant des bons mariages. Ou alors l'attente en dessous, se dire, de toute façon, il n'y a rien à attendre particulier de nos mariages. Mais non, nous pouvons avoir de bons mariages. Et dans cette perspective de l'attente du mariage où le Christ, de ce grand mariage, se présentera à l'Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Par rapport à l'Église, c'est un petit peu pareil. Soit nous avons des attentes irréalistes qui vont nous pousser de zapper d'une église à l'autre. Et bien sûr que nous nous découvrons imparfaits et que nous vivons avec des personnes imparfaites. Mais Dieu veut que nous entrions dans cette course pour justement tous nous laisser transformer à l'image de Jésus-Christ. Ou alors nous pouvons dire, bien sûr l'église est imparfaite, mais quelque part c'est normal. Et là on est satisfait pour des mauvaises raisons. Et puis un dernier point, c'est par rapport à l'évangile de prospérité. Une attente exagérée, c'est de dire, de prêcher un évangile en disant « Mais Dieu, il veut que nous soyons riches et en bonne santé. » Alors ce n'est pas pour tout de suite que nous serons assurément, toujours, tout le temps, en bonne santé. Cela sera vrai que dans son futur règne. Mais nous pouvons aussi avoir une attente minorée, de dire « Mais de toute façon, Seigneur, c'est un temps de petites choses. » Aujourd'hui, tu n'es pas puissant, Seigneur. Demain, tu le seras. Hier, tu l'étais. Aujourd'hui, tu n'es pas puissant, Seigneur. Et on n'attend pas de bénédiction. Alors qu'à cette lumière du passé, du présent et du futur, notre Dieu est tout aussi puissant. Et enfin, pour conclure, cette course, nous ne sommes pas seuls. Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'à quand ? Jusqu'au jour de Jésus-Christ.